Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mardi. Est-ce que comme moi, vous êtes mélangés des fois dans les signaux, dans les messages que nous envoie le gouvernement? Je regarde la conférence de presse hier pour faire le point sur le variant Omicron. D'un côté, on nous dit, ben écoutez, c'est inquiétant. Les voyageurs devraient faire attention et penser à deux fois avant de planifier des voyages pendant les vacances, des fêtes, parce qu'on le sait pas, peut-être il va y avoir une quarantaine au retour. Puis c'est inquiétant, c'est préoccupant. Pas. Puis dans les minutes qui suivent ou dans les heures qui suivent, on a notre premier ministre qui dit « Ben, savez-vous quoi, dans le temps des fêtes, au lieu de 10 pour le party, vous allez pouvoir peut-être être 25. Excusez-moi, là, je veux dire, on est-tu inquiet et préoccupé ou on se lance tout le monde dans un party deux fois et demi plus gros que ce qu'on aurait pensé pouvoir faire? » Je vous avoue que je trouve ça assez mélangeant. Je répète, quand le gouvernement nous envoie des messages en temps de pandémie, ça nous prend les 3 C. Il faut que ce soit clair, que ce soit concis et que ce soit constant. Ben, c'est pas vraiment ça qu'on a eu hier. Quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça, j'ai poussé un petit peu découragé. Ben, voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Je vous ai parlé à plusieurs reprises de l'organisme Deuil Jeunesse, un organisme extrêmement important, un organisme dont on a beaucoup entendu parler aussi avec le témoignage d'Amélie Lemieux, la maman des deux petites filles Carpentier. Cette histoire vraiment d'une tristesse inouïe. Et je vous ai proposé à plusieurs reprises des entrevues avec Josée Masson, qui est la fabuleuse directrice générale et fondatrice de Deuil Jeunesse. Ben aujourd'hui, 30 novembre, c'est la journée caritative pour Deuil Jeunesse. Je me suis dit, bon, on va reparler à Josée pour qu'elle puisse nous dire encore une fois ce que fait son organisme et le bien qu'il propage. Josée est au bout de la ligne. Bonjour, Josée.
Bonjour.
Pour les gens, il y en a encore peut-être quelques-uns qui ne savent pas ce que c'est que Deuil Jeunesse. Josée, peux-tu nous le réexpliquer, nous le représenter?
Oui, bien sûr. Alors, Deuil Jeunesse, c'est un organisme de bienfaisance qui couvre vraiment là, le Québec là, au complet, qui offre des services professionnels aux enfants, aux adolescents, aux adultes qui vivent la mort de notre cher ou aussi des pertes ou la maladie grave aussi. Alors, on les accompagne professionnellement dans ce cheminement-là, que ce soit par le biais de groupes de soutien ou de façon familiale et même individuelle. Ça, c'est la première partie de notre mission, c'est notre grande mission. L'autre mission, ça va être de sensibiliser la population à l'importance de l'impact du tabou et des mythes qu'on a par rapport à la mort et au deuil et aux pertes dans la vie, puis à l'importance de savoir bien accompagner un proche, finalement, qui vit cette réalité.
D'accord. Parle-moi un peu du rôle, de l'importance de Madame Amélie Lemieux que tu présentes, toi, comme une amie de l'organisme. C'est quoi les liens que vous avez tissés ensemble avec Amélie Lemieux?
Bien, en fait, c'est sûr que je suis rentrée, moi, là, personnellement, dans la vie d'Amélie par une porte inhabituelle, c'est-à-dire c'était pas professionnel. On m'a demandé de faire la célébration de la vie de Nora et Romy dans le moment le plus tragique de sa vie, hein, évidemment. Alors moi, j'ai rencontré cette dame-là alors que la souffrance était inimaginable et difficile à nommer et à qualifier. J'ai fait cette célébration du mieux que j'ai pu avec les 25 années d'expérience que j'avais au niveau du deuil. Alors par la suite, c'est sûr qu'Amélie, elle est devenue quand même très près de moi et de l'organisme. Par la suite, elle a eu des services professionnels par le biais de mon organisme, mais elle a toujours eu un lien particulier. L'an dernier, on a fait le mardi je donne en disant à la population, si on atteint notre objectif, on va pouvoir offrir la cour du siège social à Charlebourg de Deuil Jeunesse à notre clientèle, mais en hommage à Nora et Romy. On a fait ce lancement-là récemment. Alors, la cour est magnifique. Donc, on a fait un projet porteur pour la population. Alors, Amélie est toujours là parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle a le goût de nous soutenir, puis parce qu'elle elle fait le témoignage de l'importance, finalement, d'être bien accompagnée dans le deuil, puis que ça fait toute la différence, finalement.
Puis c'est important, j'imagine, aussi d'envoyer le message. L'histoire d'Amélie Lemieux et l'histoire de Nora et Romy a évidemment été très médiatisée, mais chaque jour, il y a des histoires de deuil qui se passent loin des projecteurs, qui se passent non pas dans la lumière, mais dans l'ombre. Et ces deuils-là sont tout aussi importants.
Ah, tout à fait. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. Premièrement, le pire deuil, c'est celui qu'on vit. Hein, c'est celui qu'on vit parce que nous, on connaît le lien qu'on a avec la personne. Nous, c'est notre histoire à nous. Alors, ça fait mal, puis vous avez raison. En fait, la majorité de tous les deuils et les pertes vont être loin des projecteurs, vont pas recevoir le soutien de la population. Ça, c'est important. Pour nous, chaque deuil est important et c'est pas parce que c'est médiatisé que c'est plus important. Au contraire, il se vit des tragédies dans le silence et dans la souffrance de façon... c'est à tous les jours. C'est plusieurs fois par jour. Hein. Vous savez qu'il y a, il y a quoi, 65 000 décès par jour au Québec. Alors, des endeuillés, il y en a. Si on ajoute à ça les autres pertes, les abandons et tout ça, ça en fait des gens qui souffrent. Hein. Alors, oui, c'est important. Nous, Amélie, on trouve que son message est porteur, dans le sens que les gens font souvent « Ah oui, on est capable de survivre à ça, c'est ce qu'on entend. » Alors, pour nous, comme son histoire, elle est connue, elle est une porte d'entrée pour que les gens qui souffrent comprennent que derrière les pires tragédies, on peut continuer à vivre. Ça, c'est important pour nous. Alors, et de ces histoires, on en a plein. C'est au quotidien, puis c'est très porteur pour nous.
Et on se souvient, bien sûr, de cette image d'Amélie Lemieux entourée de ses proches qui la prenaient dans ses bras alors qu'elle était en train de s'effondrer quand elle s'est adressée aux médias, quand elle s'est adressée à la population. Et cette image-là, je trouve, est restée vraiment marquée dans notre imaginaire collectif parce que c'était à la fois la douleur, évidemment, de Madame Lemieux, mais aussi l'importance de dire on n'est pas tout seul dans la vie. Et oui, même au moment où on vit les pires pertes, les pires cauchemars, il y a des gens qui sont là pour nous aider, pour nous carrément physiquement nous soutenir. C'est aussi ça le message de Deuil Jeunesse. C'est pas juste vous allez survivre, vous allez vous en sortir, mais il y a des gens qui sont là pour vous soutenir.
Tout à fait. Puis c'est pour ça que je disais que l'autre partie de notre mission, c'est justement d'aider la population à saisir comment on peut bien soutenir. Hein? Parce que c'est pas si évident que ça. On a souvent le réflexe d'avoir des pensées magiques ou de dire des choses comme tu vas voir, tu vas t'en remettre, le temps arrange les choses. C'est pas comme ça qu'on soutient une personne qui est souffrante. Faut davantage s'assurer de quels sont ses besoins. Ça peut être très simple soutenir une personne très souffrante, mais il faut savoir comment. Puis quand on sait comment, ben là, la route par la suite, elle est tellement plus simple pour tout le monde.
C'est peut-être justement en posant des questions au lieu d'offrir des réponses.
Oui. Tellement, tellement, parce que on pense souvent pour l'autre. Exemple, là, c'est Noël bientôt. Comment il y a de familles qui décident et qui disent « Ah là, il faudrait que notre mère fasse un sapin de Noël à Noël, ça n'a pas de bon sens, tu sais, qu'elle soit dans le deuil de notre père. » Il y en a qui décident, hein, qui vont même aller chez une personne faire le sapin en pensant que c'est ce qu'elle veut. Mais non, c'est pas si grave que ça si on n'en fait pas cette année un sapin de Noël. C'est pas si grave. Il faut aller selon nos besoins. Le deuil, c'est une trajectoire, c'est pas une destination, c'est quelque chose qu'on porte en nous. Puis à tous les jours, on va être confronté à des émotions particulières qui nous arrivent, hein, qui peuvent se transformer de seconde en seconde. Alors, c'est important juste de les accueillir puis d'écouter nos besoins, d'apprendre à le nommer à nos proches, mais d'apprendre à nos proches à les écouter, surtout.
Oui, tout à fait. Puis il y a aussi la notion de temps, puis ça, on en a souvent parlé, Josée, dans les différentes entrevues que j'ai faites avec toi au fil des ans, ici, et quand je faisais de la radio à Québec, c'est la notion de temps, parce que souvent, les gens s'impatientent en disant, ben coudonc, ouais, ça fait 3 ans qu'il est mort, ton chum, ça fait 5 ans qu'elle est morte, ta meilleure amie, ça fait 10 ans que ton mari est parti, ressaisis-toi, mais il n'y a pas de date, c'est pas comme un yogourt, il n'y a pas de date de péremption, là, on peut pas dire à la place de l'autre combien de temps ça va lui prendre pour retomber sur ses pattes.
Non, nous, on explique beaucoup aux enfants puis aux adultes, le deuil, il se calcule pas en temps, il se calcule en amour. Plus tu as aimé la personne qui est plus là, plus ça va être long, tu vas le porter toute ta vie, parce que le deuil, en fait, c'est apprendre à vivre sans celui qu'on aime pour le reste de notre vie.
Je regardais en fin de semaine, je ne donnerai pas de nom, mais en fin de semaine, j'ai reçu un ami, que je pense, une connaissance, quelqu'un que je connais depuis des années, plus au niveau professionnel, est venu souper à la maison. Et à un moment donné, on a appris au détour d'une conversation, en 2 gorgées de vin, que sa fille était morte il y a 5 ans. On ne l'avait jamais su, parce que c'est quelqu'un que je côtoie plus au niveau professionnel. Et là, il y a comme eu un... Le temps s'est suspendu pendant le souper parce que il nous disait, ben, ma fille, elle est morte il y a 5 ans, mais la façon dont il nous en parlait, c'est comme si elle était morte la veille. Et je me disais, ben, dans le fond, peut-être que si je lui reparle dans 5 ans, ça va être exactement comme si elle était morte la veille. On peut pas savoir à quel point ça bouleverse la vie de quelqu'un de vivre un deuil, hein, Josée?
Ah, c'est énorme. On peut pas le savoir, puis on le saura jamais, parce que c'est difficile de visiter le cœur de l'autre. C'est très, très difficile.
C'est tellement bien dit! Attends, répète-moi ça. C'est beau, ça.
C'est difficile de visiter le cœur de l'autre, de savoir tout ce que ça comporte, la mort de sa fille, lui. C'est souvent aussi la perte de projet, la perte d'idées. Hein. On aurait voulu être grand-papa de cet enfant. Tu sais, plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi que les gens n'ont pas souvent la tribune pour en parler. Comme c'est très tabou, comme les gens s'empêchent d'en parler, puis ils veulent pas te déranger. Vous savez, les endeuillés veulent pas déranger les gens non endeuillés, et les gens non endeuillés veulent pas provoquer la pensée aux endeuillés. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait, on garde le silence. Donc, dès qu'il y a une ouverture, c'est sûr que le sujet devient souvent plus aride parce qu'il est tellement pas souvent discuté, en plus.
Puis le deuil, c'est pas juste la mort de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est vivant, mais dont on doit faire le deuil. Ça peut être des abandons. Ça peut être l'absence de toutes sortes de choses. Là, ça peut être le deuil d'une carrière, le deuil d'une relation. Il y a toutes sortes de déclinaisons au travail que vous faites avec Deuil Jeunesse.
C'est pour ça que je dis souvent, nous, c'est le deuil et les pertes. Hein? Alors oui, tu sais, l'abandon, les ruptures, il y a plein de choses qui nous amènent à être dans des émotions très similaires à la mort d'un être cher. Alors oui, ça fait vraiment partie de notre mission, puis on est là pour ça.
Comment elle va, Amélie Lemieux? Est-ce qu'elle va mieux?
C'est encore difficile. Je faisais une entrevue avec elle ce matin. Elle disait, c'est encore le trou noir. C'est encore extrêmement difficile. Elle l'accueille. Et ça, c'est sa grande force. Elle accueille les émotions et elle ne les cache pas. Donc, si aujourd'hui, c'est de la colère, c'est de la colère. Si c'est de la peine, 10 minutes plus tard, c'est de la peine. Et elle se permet de rire. C'est un peu ce que tous les endeuillés devraient faire, hein? Accueillir ce qui se passe. On n'est pas dans l'acceptation. Elle porte la mort de ses enfants à chaque seconde de sa vie, mais elle est capable d'avoir des projets, de nourrir des projets, et ça, ben, c'est ce qu'on souhaite vraiment.
C'est ce qu'on souhaite. Ben écoute, prends-la dans tes bras de notre part pour lui offrir un grand câlin collectif. Donc, revenons à cette journée, la journée mardi, je donne. L'objectif, c'est de ramasser 50 000 $. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce 50 000 $-là, Josée?
Bien, premièrement, il faut comprendre que depuis le début de la pandémie, des activités de financement, on n'en a pas eu.
Ah oui.
Quand la pandémie est arrivée, il nous restait à Deuil Jeunesse 3 mois de vie devant nous. C'est sûr que ça a été la panique, on s'est retroussé les manches, on a reçu de l'aide d'urgence, ça nous a permis de vivre. Par la suite, il n'y a plus d'aide d'urgence qui arrive, mais il n'y a plus d'activités de financement, moins de conférences, moins de formations, plus de groupes d'intervention, plein de choses se sont arrêtées, même des gens qui habituellement faisaient des activités pour nous, ce qu'on appelle nos activités tiers, ben cette année, il n'y a pas de tournoi de quilles, il n'y a pas de tout ça. Hein. Alors, il y a un trou énorme actuellement dans la vie financière de Deuil Jeunesse qui est causé par la pandémie. Premièrement, il faut qu'on... Nous, c'est comme notre activité de financement aujourd'hui, c'est comme si on faisait un spectacle bénéfice. C'est un peu ça, hein? Comme on ferait à chaque année, mais ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu en faire. Alors, c'est sûr que l'objectif est élevé, mais on veut faire comprendre aux gens que ça fait longtemps là, qu'on n'a pas eu ça et on est subventionné seulement à peu près 17 %. Alors, nous...
Oh, c'est pas beaucoup, ça?
Non.
C'est pas beaucoup, ça, Josée?
Ben non. Puis moi, c'est des professionnels que j'ai. Moi, tu sais, c'est important. J'ai besoin. Ce 83 %-là, je l'ai par les donateurs puis par nos activités de financement. Plus d'activités de financement, ben j'ai juste besoin de donateurs. Alors moi, aujourd'hui, j'ai besoin de dons. J'en ai besoin. Puis par la suite, les gens doivent être rassurés parce que je suis un organisme de bienfaisance. Donc, je suis obligée de... Moi, si je fais plus de sous que prévu, je suis obligée de l'investir dans la mission. Alors, c'est nécessairement des projets pour la clientèle, des services pour la clientèle que je peux faire avec ces sous-là. C'est que ça, hein. Moi, je suis un OBNL, alors je réponds à toutes ces normes-là. Fait que les gens peuvent pas dire, après ça, on s'en met dans les poches, là. Nous, non, pas du tout. Nous, nos poches, là, c'est notre clientèle, puis c'est de réinvestir pour leur mieux-être, toujours, toujours, toujours. Alors, là, on souhaite, c'est un... Et je l'ai dit encore, c'est un grand objectif qu'on s'est donné comme titre cette année. Mardi, je donne mon 10. Alors, on veut que les gens donnent 10 $ puis que chaque personne qui donne 10 $ parle à 10 autres personnes qui pourraient donner 10 $
C'est bon.
Comme ça, on aurait 5 000 personnes qui donneraient 10 $ et on atteindrait notre objectif. Puis bon. Je pense que c'est réalisable.
Ben oui.
Alors...
Mais c'est tellement une belle cause. C'est tellement une belle cause. C'est pour ça que régulièrement, je prends tes nouvelles et je prends des nouvelles de l'organisme. C'est la belle Catherine à Québec qui nous avait mis en contact au début. Mais je reviens à ça. C'est un peu contradictoire d'une certaine façon, Josée. Puis c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'est que, au moment de la pandémie, justement, plein de gens ont dû, justement, faire le deuil. Que ce soit le deuil d'un proche en CHSLD, que ce soit le deuil d'un grand-parent, que ce soit le deuil d'un conjoint, que ce soit le deuil d'une vie aussi, hein. On a perdu un certain mode de vie avec la pandémie, donc on est tous en deuil de ça. Donc, on a bien besoin de réconfort en cette période. Ben écoute, Josée, bonne chance pour l'atteinte de l'objectif. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée, donc, mardi, je donne pour Deuil Jeunesse. Et je rappelle que Josée Masson, tu es la fondatrice et directrice générale de Deuil Jeunesse. Puis, si vous voulez en savoir plus, ben allez sur la page Facebook, là, Organisme Deuil Jeunesse pour en savoir plus. Mais je pense qu'on a pas mal fait le tour aujourd'hui. Merci beaucoup, Josée.
Oh, merci. Merci beaucoup pour votre confiance.
Merci. Merci, Josée. Au revoir.
Au revoir.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
À la rencontre Durocher-Barrette, aujourd'hui, Marie-Claude Barrette veut nous parler d'une entrevue qui l'a marquée à son émission Marie-Claude à TVA avec le pédiatre Jean-François Chicoine. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Sophie. Ben oui, parce que Jean-François Chicoine, ça fait quelques semaines qu'il vient chaque lundi matin nous parler de quelque chose qui l'interpelle à partir de l'actualité. Puis cette semaine, je vais te dire là, que moi, ça, c'est venu me chercher puis ça m'a fait réfléchir. Parce que lui, comme pédiatre, là, tu sais, la semaine dernière, bon, c'était le début de la vaccination. Il y avait des manifestants devant l'hôpital Sainte-Justine où il travaille, des policiers qui étaient là pour s'assurer que tout soit correct, des agents de sécurité dans l'hôpital. Puis en plus, les pédiatres ont reçu des menaces et des menaces de mort aussi.
Mais t'sais, voyons.
Il dit, tu sais, il arrivait à la... Mais où est la nuance? Tu sais, comment ça se fait? Tu sais, puis il a amorcé toute une réflexion. Tu vas voir, on va arriver à la lecture. Mais je trouvais que déjà ça, tu sais, c'est gros. Parce que moi, j'ai comme l'impression, puis je l'entendais parler, puis on échangeait. Tu sais, les conséquences des écrans, là, c'est énorme de banaliser pratiquement la menace de mort. Même Jean-François Chicoine disait... Mais tu sais, je devrais peut-être m'énerver, ça devrait peut-être m'empêcher de dormir la nuit parce qu'il y a peut-être, il y a 15 ans, j'avais une menace de mort. J'aurais pas réagi de cette façon-là, mais là, on dirait que c'est tellement facile de menacer quelqu'un, mais en même temps, on devrait pas banaliser
absolument
ce geste-là.
C'est ça, t'sais, mais c'est devenu tellement... C'est parce qu'en plus, tu lis les journaux, tu regardes la télé, puis c'est rempli de monde qui se font menacer de mort pour un rien, pour ci, pour ça... Mais j'en reviens pas de ce que tu me dis, Marie-Claude, que sur le simplement parce qu'ils offrent la vaccination, mais la vaccination n'est pas obligatoire pour les enfants. Là. Il y a pas un enfant qu'on a pris de force pour le faire vacciner. Ça reste une décision des parents pour les 5-11 ans. Donc, qu'on menace de mort des pédiatres, la mâchoire me tombe.
Ben absolument. Moi aussi, quand il m'a dit ça la veille, je disais, ça n'a pas de bon sens. Et on en a parlé ensemble. Puis il disait, mais c'est qu'on arrive à un moment donné, on s'écorche sans se connaître. Puis tu sais, on parlait du fameux, on va en parler ensemble, de Twitter. Tu sais, Twitter, quand ça a commencé, c'était 140 caractères. Maintenant, ils ont augmenté. Mais comment tu arrives pour argumenter, pour apporter une nuance dans ton propos dans 140 caractères? Et on dirait que... Les réseaux sociaux sont teintés de cette rapidité-là de s'exprimer. Puis on remarque une grande analphabétisation fonctionnelle. Je ne parle pas de ne pas savoir lire, je parle de ne pas être capable de comprendre tout à fait ce qu'on lit.
Tu comprends? Écoute, on est confronté à ça. On est confronté à ça tous les jours. Écoute, on écrit des chroniques de 540 mots et parfois, il y a des gens qui ne se fient que sur le titre. Ils réagissent à une chronique, ils ont lu le titre, mais est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir? Est-ce que vous avez pris le temps? Ah non, moi je suis pas d'accord avec vous, Madame Durocher, mais vous avez même pas pris le temps de lire le texte.
Ben exactement, donc on n'argumente pas, puis aussi, tu sais, de liker une mauvaise nouvelle, tu sais, de mettre le pouce en l'air quand on est sur Facebook pour quelque chose d'épouvantable, mais on dirait que, ben, tu sais, c'est la façon de dire « oui, je comprends », mais c'est comme si le cerveau décodait des drôles de choses en même temps. On voit quelque chose de terrible, on like, on dit oui à ça. Tu sais, alors c'est... Et on arrivait à parler de la lecture parce que c'est le salon du livre présentement qui se déroule à Montréal. Et Jean-François, comme pédiatre, évidemment, il est aux premières loges, il rencontre des familles, il rencontre des enfants. Puis il disait, la lecture, là, c'est essentiel de lire des histoires à ses enfants. Puis après, il dit, quand l'enfant... à assimiler l'histoire, laissez-lui lui raconter l'histoire, même si c'est pas lire, il va être créatif, il va argumenter son histoire, il va la nuancer. Et ça, je trouvais ça important. Il disait, si on lisait 20 minutes un enfant par jour, c'est qu'on va lui donner aussi le goût de lire, puis on lui apprend aussi des choses. Parce que c'est, tu sais, apprendre, argumenter, nuancer, comprendre ce qu'on lit et argumenter ce qu'on dit. Tu sais, c'est comme la base, on dirait, Sophie, que c'est ça qui est en train de se perdre sur la sphère publique. Tu sais, l'entonnoir, qu'est-ce qui va rester de toute cette polarisation-là? Tu sais, on est toujours en réaction à quelque chose pas en argumentant, mais en écorchant. On est beaucoup dans... Imagine, là, il y a 30 ans, si on avait dit ça, on va finir par s'écorcher les êtres humains sans se connaître. Mm. On aurait dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'écorcher, écœurer quelqu'un, menacer quelqu'un sans même y avoir adressé la parole ou échanger un regard avec cette personne-là. Ah oui.
Écoute, c'est vraiment problématique, puis ça fait plusieurs fois qu'on en parle, toi et moi. La virulence des commentaires, des trucs qu'on reçoit sur les médias sociaux, c'est absolument hallucinant. Puis en plus, bon, on est deux personnalités publiques, toi bien extrêmement connue avec la télé et tout, mais je veux dire, des fois, les gens nous écrivent des choses, c'est absolument épouvantable. Je suis convaincue que si cette personne-là qui m'écrit derrière son clavier, je te souhaite un cancer, tes enfants doivent avoir honte de toi, que cette personne-là, si je la rencontrais à l'épicerie, elle serait incapable de me dire ça en pleine face. Voyons donc, tu dis pas à quelqu'un « je te souhaite le cancer ». Moi, j'en ai des ennemis dans la vie, là, pas beaucoup, même pas les doigts d'une main, puis jamais je leur dirais ça.
Ben, ça n'a aucun sens, c'est ça. Alors ça, on dirait qu'on mesure même pas le pouvoir des mots. Tu sais, moi, je pense que j'avais une chronique, j'écrirais les conséquences des écrans puis le pouvoir des livres versus le pouvoir des livres. Parce que c'est vrai que Jean-François, je sais pas, quand il parlait des livres, je me dis, mais c'est tellement ça, c'est tellement dans la lecture qu'on apprend, tu sais, à gérer ses émotions, à comprendre le monde, tu sais, on peut tout comprendre
à se poser aussi, à prendre du temps, parce que tu l'as fait, le parallèle Twitter puis tous les réseaux sociaux, c'est la rapidité, hein, c'est faut que ça aille vite, la nouvelle est à peine sortie que déjà on réagit. Lire, c'est prendre du temps. Et j'ouvre ici une toute petite parenthèse, Marie-Claude. Je ne sais pas si tu as vu récemment sur Twitter, justement, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui a interpellé le premier ministre François Legault, parce que François Legault a eu le culot de féliciter Marc Bergevin, qui donc s'est fait remercier du Canadien, et il prend le temps de lui dire, ben vous savez, vous et moi, on est un peu pareil, on a un petit peu de pression dans nos emplois. Et là, Éric Duhaime, le Parti conservateur, répond en disant, ben Marc Bergevin, lui, il n'a jamais eu le temps de lire. Autrement dit, vous êtes un mauvais premier ministre parce que vous prenez le temps de lire. C'est rendu en 2021 qu'on reproche à un premier ministre, pour se soustraire à la pression énorme de gérer une pandémie, de prendre quelques instants dans sa journée pour réfléchir en lisant. Moi, j'ai capoté quand j'ai vu ça.
Ben, tu vois, mais c'est ça. Ça n'a pas de sens parce que c'est vrai, tu sais, ce que tu dis, lire, c'est se poser, c'est s'arrêter, c'est apprendre, c'est réfléchir, c'est prendre un pas de recul. Tu sais, on vient pas au monde avec la science infuse, on apprend toute sa vie. Puis j'ai comme l'impression, quand on regardait, moi, je regardais, lisais la biographie de Winston Churchill, tu sais, s'il y en a un qui a lu, qui a écrit,
mais oui,
qui prenait un pas de recul, puis c'est pas parce qu'il y avait pas de grosses responsabilités.
Mais non, il y avait à gérer la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement. Alors, tu sais, puis c'est tout ce qu'il a fait, justement, en prenant le temps de réfléchir. Alors moi, je salue de dire, j'ai besoin de prendre un pas de recul pour mieux revenir, pour mieux observer. C'est pas en étant toujours dans l'action. Parce que quand on est toujours dans l'action, on ne fait que réagir. Et à un moment donné, ça devient dangereux. Alors là, il y a le Salon du livre. Moi, je pense que c'est un bon endroit pour aller se promener. Puis dans la lecture, il y en a, tu sais, au Québec, on est reconnu pour notre littérature jeunesse aussi, qui est vraiment généreuse. Et en plus, on peut... Tu sais, moi, je trouve que quand on se promène à travers les livres, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez même pas pensé lire, que vous allez lire, qui va vous en apprendre beaucoup. On peut rencontrer des auteurs, mais lecture, c'est... Tu sais, en plus, on est des francophones. Tu sais, je trouve que la lecture faite par nos pères ici au Québec nous ressemble et est importante. Alors, ce que Jean-François a dit, en tout cas, moi, je te dis, Sophie, là, je me dis, lui, là, il est devant moi, il est menacé de mort parce qu'il est pédiatre. Tu sais, quand même, là, on est rendu là. Alors,
c'est fou.
On le dit tout le temps, il ne faut pas tolérer ça. Mais d'où ça part, je pense, c'est une forme d'analphabétisme fonctionnel. Puis je pense que c'est important d'en parler de ce problème qui s'élargit avec le temps, qui prend plus de place.
Mais c'est ça, mais c'est aussi l'argument de dire, ben lire, c'est pas juste des mots sur une page avec des petits dessins pour apprendre aux enfants comment on appelle un lapin puis comment on appelle une carotte. C'est d'apprendre à réfléchir, c'est d'apprendre à avoir des valeurs de cœur, des valeurs de tête. C'est ça la lecture, c'est ça que ça nous apprend. nous apporte. Puis quand tu disais tout à l'heure qu'après d'avoir lu à un enfant, de lui demander de lui raconter l'histoire, d'argumenter l'histoire, de leur apprendre à s'exprimer. Puis ça, on élargit peut-être à autre chose, Marie-Claude, mais moi, j'ai toujours trouvé qu'au Québec, on n'apprend pas aux jeunes à débattre. On leur apprend pas thèse, antithèse, synthèse. On leur apprend pas à bâtir un argument. Puis ça donne des adultes qui, au lieu d'argumenter avec toi, t'injurie ou t'insulte. Et c'est pour ça que je reviens au fameux cours qui va remplacer le cours de ECR à la prochaine rentrée. Ça va être à titre d'expérience, mais le cours de culture et de citoyenneté québécoise, il faut qu'on apprenne aux jeunes à structurer leur pensée. C'est essentiel.
Et c'est pas dans notre culture de s'obstiner à argumenter. C'est-à-dire que, tu sais, si on parle de la culture que tu connais beaucoup mieux que moi, la culture française, où les gens argumentent plus fort.
Oui.
Je me souviens, à un moment donné, je suis arrivée dans une librairie et à Paris, puis là, il y avait deux personnes, c'est à l'époque que Sarkozy était président, et ça s'obstinait fort. Écoute, moi, j'étais dans la librairie, j'étais « Ah, oh, OK, peut-être que je devrais m'en aller. » On dirait que j'étais pas bien. Et finalement, parce que c'était le propriétaire avec un client, finalement, il a dit « Bon, à demain. » Puis il est parti avec un gros sourire, son journal en petit bras. Ouais. Il dit « OK, c'est comme ça. » Tu sais, ils sont pas d'accord, ouais. Ils sont capables de se le dire. Mais je pense qu'ici, on est poli. Tu sais, c'est comme pas dans... On n'a pas cette...
Pas de chicane dans la cabane au Québec, on
oui,
veut pas...
Oui, on est beaucoup comme ça, pas de chicane dans la cabane, alors que d'être argumenté sans arriver avec, tu sais, l'émotion lourde puis qu'on s'en veuille pendant des semaines, c'est pas ça l'idée, mais effectivement, d'argumenter. Et pour ça, ben il faut quand même connaître son histoire. Il faut, comme tu dis, tu sais, si t'as pas d'argument, tu peux pas aller loin en t'obstinant, là, puis en voulant faire valoir tes idées. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé, tu sais, toutes les émissions que je fais, moi, des fois, les gens sont pas d'accord, mais moi, je dis aux gens, on n'a pas besoin d'être d'accord, mais on a besoin d'entendre, par exemple, les positions de
exactement.
Tout le monde. Puis on peut le faire dans le plus grand des respects, mais laissons-nous la parole, essayons d'entendre ce que les autres ont à dire. Puis ça, ben laissons des fois les émotions de côté, parce que des fois, les émotions nous jouent des tours, puis finalement, ça monte en épingle, puis ça s'arrête là. Alors, tu sais, il faut prendre le temps d'entendre, puis comme tu dis, je pense que s'argumenter est quand même une base pour être capable de discuter avec l'autre.
Absolument. Écoute, il y a une chose sur laquelle on n'argumentera pas, en tout cas, c'est le scandale de savoir la quantité de gens au Québec qui attendent une opération depuis plus d'un an. C'est ce qu'on apprend dans le journal de Montréal, Journal de Québec, ce matin. 18 563 personnes en attente depuis plus d'un an. C'est décourageant, Marie-Claude.
Moi, là, je sais pas quoi te... Je regardais ça ce matin, puis je pense que j'ai perdu des arguments. J'avais plus rien à dire parce que si tu te souviens, là, avant la pandémie, la gestion des listes d'attente, là, c'était au cœur des problèmes de notre système de santé. C'est, ça a toujours été ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les listes d'attente? Il y a des gens, on parlait déjà d'orthopédie, en fait, de plein de choses, mais ça fait des années qu'on parle de ça. Et là, quand on regarde le tableau, qui est le nombre de personnes en attente de chirurgie depuis le 29 février 2020 à aujourd'hui, c'est ahurissant. L'augmentation. Alors, je me dis, si on n'était pas capable de gérer ça en février 2020, qu'est-ce qui va se passer? Parce que si on regarde des deux côtés de la clôture, les patients qui attendent présentement, dans quel état ils sont? Et là, on parle dans toutes les sphères des chirurgies. Oui. Et tu sais, je pensais, tu sais, à un moment donné, il y a un orthopédiste qui me racontait que le drame avec... Tu sais, des fois, une opération de la hanche, une opération au genou, on va dire, ouais, mais tu sais, c'est pas si grave si la personne attend. La douleur, des fois, elle doit rester assise, elle doit restreindre ses mouvements. Donc, ça fait des personnes qui viennent déprimer. Il y a beaucoup de cas de dépression qui arrivent avec ces gens-là. Et justement, la douleur, tu sais, quand on parlait des antidouleurs qui sont forts, qu'on peut devenir accro.
Oui, les opioïdes.
Il y a toutes ces répercussions-là pour... On a l'image, on avait chacun des patients qui attend, qu'est-ce que ça cause dans sa vie à lui de ne pas être opéré, de retarder l'opération. C'est incroyable. Tu sais, je regardais, il y a chirurgie générale, vasculaire, plastique, neurochirurgie. Écoute, c'est dans toutes
c'est
les
pas banal.
Et les tests qui sont en attente et les dépistages, toutes les formes de dépistage qu'on n'entend pas. Et on peut imaginer, si on était dans le système de santé, la pression quand tu regardes ces chiffres-là, tu dis comment on va y arriver.
Et il faut rappeler, Marie-Claude, il faut le rappeler et il faut marteler ce point-là. Pour quelle raison on arrive avec ces chiffres-là? C'est évidemment la pandémie, mais aussi c'est qu'on a sur un plateau d'argent un vaccin qui peut empêcher, pas empêcher à 100%, mais qui peut empêcher de développer la maladie. Donc, les gens qui sont anti-vaccins, je peux pas croire qu'ils vont pas lire le journal ce matin, voir ce chiffre-là, 18 563 personnes qui attendent depuis plus d'un an, puis qu'il y en a pas une couple là-dedans qui vont se dire, ben, il faut que j'aille me faire vacciner, ben, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça avec autant de gens en attente. Le chiffre total de gens qui sont en attente, tout délai confondu, 150 000. Mais,
ouais.
C'est aussi une conséquence directe de gens qui n'ont pas pris soin et qui se retrouvent à obstruer ou à occuper, surcharger le système de santé, alors qu'ils ne devraient pas être là. Ils devraient être chez eux en pleine forme, mais à la place, ils ont engorgé le système. Et ça ne me met pas de très bonne humeur, surtout quand on apprend, comme tu nous le dis tout à l'heure, là, que ces mêmes gens-là qui sont contre, par exemple, la vaccination pour les enfants, s'en vont faire des menaces à des pédiatres. Vraiment, là, c'est imbuvable. Marie-Claude? Toujours un plaisir de te parler. On se retrouve demain.
À demain, ma chère. Bonne journée.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchand d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Alors, ça fait maintenant une semaine que la vaccination des 5-11 ans contre la COVID-19 a commencé ici au Québec. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais je la trouve formidable, la publicité du gouvernement pour encourager les enfants à se faire vacciner. Où c'est des enfants qui font des grimaces, qui tirent la langue au vilain, à la vilaine COVID-19. Il y a aussi des publicités dans les journaux où on voit nos petits super-héros faire des gros bras, là, puis faire des grimaces à la COVID. Bref, le processus est bien enclenché. Il y a quand même déjà le tiers des enfants admissibles qui ont soit qui sont déjà fait vacciner ou qui ont pris un rendez-vous. Bref, ça va bien, mais il y a encore beaucoup de questions. On va parler de ces questions-là justement avec Dr Sarah Wiseman. Elle est pédiatre infectiologue chez Elna Pédiatrie Tiny Tots. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Dr Wiseman.
Oui, bonjour, Sophie.
Alors, c'est Wiseman ou Wiseman?
Wiseman.
Wiseman. Donc, docteur Wiseman, c'est quoi la question que vous entendez le plus souvent de la part des parents et de la part des enfants par rapport à la vaccination des 5-11 ans?
Donc, en général, ce sont les parents qui posent ces questions-là pour les plus petits, qui était vraiment un discours très différent lorsque j'en discutais avec les adolescents. Donc, les parents s'inquiètent que souvent, comme la maladie n'est pas grave chez les enfants, pourquoi les vacciner? Et prendre un risque, même s'il est petit, pour des complications post-vaccinales. Donc, c'est souvent cela que je discute pour la sécurité et l'innocuité du vaccin. Je pense que c'est ça qui inquiète le plus les parents dans cet inconnu. Donc, ce n'est pas vraiment un inconnu. D'abord, je commence par cela, parce qu'on connaît cette plateforme depuis une trentaine d'années. Puis là, on a déjà un recul de 18 mois sur la vaccination utilisée à une échelle extraordinaire depuis le début de la pandémie. Et on a aussi une expérience pédiatrique avec la vaccination des ados qui a été excellente. Donc déjà, on a ce recul. Les complications souvent arrivent dans les prochains jours, aux prochaines semaines, après la vaccination. Donc ces manifestations inhabituelles, même si elles sont rares, on peut les surveiller. Et d'ailleurs, on a un système pour les monitorer qui est très, très serré. Et c'est comme ça qu'on peut, après que la vaccination a été distribuée, s'assurer que ça reste sécuritaire. Donc, c'est les parents, c'est ce qu'ils veulent savoir, c'est que ça soit sécuritaire.
Voilà. Et les enfants, j'imagine que leur crainte, c'est est-ce que ça fait bobo?
Oui, exact. Mais souvent, ça c'est quelle que soit la vaccination. Je pense pas que c'est propre à la COVID-19.
Non, c'est sûr.
Que quelle que soit la vaccination, même quand je rentre dans le bureau, est-ce que vous allez me piquer? Je dis non, moi, c'est pas mon travail, ça va être celui de l'infirmière, mais définitivement, c'est sûr que la petite piqûre de moustique que je leur dis, là, ça va durer quelques secondes, puis ça sera terminé. Et ce que je leur dis lorsqu'ils me posent la question, c'est que la seringue, elle est vraiment beaucoup plus petite, parce que comme on donne une plus petite dose aussi aux enfants, on fait une petite seringue, donc ils le sentent même pas. Il y a des enfants qui le sentent pas du tout.
Ah oui?
Puis même, et ceux qui le... Tout à fait. D'ailleurs, ma fille, je l'ai fait vacciner la semaine dernière, puis elle était tellement anxieuse à cause de cela, puis elle me dit, maman, je peux pas croire que j'ai rien senti et que ça va bien. Alors, j'ai dit, tu vois, c'est beaucoup d'anxiété autour de cela, parce qu'ils sont, ils s'en parlent entre enfants en classe, qui sait qui va le faire, etc. Donc, je pense que, comme vous dites, eux, ils s'inquiètent plus de ce petit bobo sur place, puis ça veut pas dire que tous vont en avoir. Puis même ceux qui en ont, c'est très léger, puis ça reste, c'est la première journée, la deuxième journée, puis après ça, ça va mieux. Il peut avoir aussi des effets systémiques, comme de la fièvre, ils sont un peu fatigués, mal à la tête, mais ça aussi, c'est très, très, très court dans le temps, puis après ça, ils vont beaucoup mieux. Donc, ça les rassure beaucoup de leur dire que ça va être rapide, puis que ça ira bien, surtout s'il y en a plusieurs dans leur classe qui vont ensemble, puis ils se comparent.
Oui, et c'est là que ça devient crucial, parce que évidemment les enfants se parlent entre eux. Donc s'il y a un enfant qui lui soit s'est fait vacciner ou va se faire vacciner, qui parle dans la cour de récréation avec un enfant dont les parents sont peut-être anti-vaccins ou démonisent les vaccins, ça doit donner lieu parfois à des drôles de réactions dans la cour de récréation. Comment on fait pour rassurer les enfants qui ont eu le vaccin ou qui vont l'avoir s'ils ont parlé avec des enfants dont les parents sont anti-vaccins?
Alors, déjà, vous l'avez fait la remarque au tout début en disant que les publicités étaient vraiment dirigées pour les enfants. Je pense que parce qu'ils veulent se mettre à ce niveau-là pour essayer de les encourager sans nécessairement stigmatiser, parce que définitivement, une intimidation dans le cours d'école, parce que c'est pas la faute de l'enfant, là, c'est le parent qui a pris une décision pour son enfant. Donc, c'est vraiment d'avoir cette discussion à l'école, avec les professeurs, et ça repasse encore par la bonne information. Et je pense que c'est ça qu'on doit être outillé. Nous, dans le bureau de médecins, c'est ce qu'on essaye le plus possible en tant que médecin de première ligne, d'essayer de rassurer les parents. Mais à l'école, sur le terrain, c'est aussi très important qu'il y ait des ateliers d'information pour les professeurs qui sont témoins de ce genre de réaction dans la cour d'école, dans les couloirs, pour pouvoir rassurer les autres enfants, puis avoir cette discussion avec leurs parents. Donc, c'est pas parce que j'ai 10 ans que je peux pas en parler versus quand j'ai 14 ans, puis que je suis un mineur, dès qu'il peut décider pour moi-même sans leur avis. Donc, même ceux qui le faisaient, et même les ados qui étaient capables, moi, je leur disais toujours, c'est important d'avoir cette discussion avec papa et maman là, à ce sujet, parce qu'il peut y avoir aussi une dissidence entre les parents. Des fois, un parent est d'accord,
oui.
L'autre n'est pas d'accord et hésitant, parce qu'ils ne sont pas nécessairement anti-vaccinaux. La plupart d'entre eux sont juste hésitants, parce qu'ils veulent juste avoir la bonne information. C'est pour ça que c'est super important pour nous, en première ligne, de les informer de la bonne façon.
Oui, c'est ça. Puis c'est pas en non plus, vous avez tout à fait utilisé le bon mot, c'est pas en stigmatisant non plus qu'on va y arriver, parce qu'il y a toutes sortes de questions qui sont légitimes. Par contre, il faut pas non plus se fermer les yeux sur le fait qu'il y a quand même une frange de la population qui est minoritaire, mais qui est extrêmement agressive dans son... Les questions ne sont pas nécessairement légitimes, c'est-à-dire que c'est une agressivité envers le personnel soignant, une agressivité envers le gouvernement, envers les autorités. Donc il y a tout ce côté-là aussi avec lequel il faut faire face. Donc on l'a dit au début, évidemment, ce sont des plus petites doses. Je ne savais pas par contre que les aiguilles étaient beaucoup plus petites. Ça vous me l'apprenez aujourd'hui.
Oui.
Je le savais pas. Donc quand vous regardez par exemple la campagne publicitaire où on voit des enfants dans différentes situations, un enfant qui prend son grand-père dans ses bras, un enfant qui joue au hockey avec ses amis, un enfant qui fête un anniversaire, et dans chacun des cas, ils font une grimace à la COVID. Vous pensez que ça, c'est la bonne approche pour aller rejoindre les enfants?
Oui, je pense, parce que effectivement, le fardeau sanitaire chez les enfants de 50 ans n'est pas élevé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation, zéro décès au Québec. Donc, c'est certain qu'en termes de complications, on a le syndrome inflammatoire multisystémique qui demeure quand même rare, 6 cas pour 100 000. La COVID longue qui a été décrite, mais bon, elle reste encore à définir. Donc, les conséquences psychosociales, elles sont très importantes chez les jeunes et chez leurs familles. Puis, les fermetures scolaires, l'isolement, l'absentéisme, les problèmes de santé mentale, tout ça, ça pèse très lourd, en oui. fait, pour les enfants. Puis, c'est pour ça que la publicité a été vraiment dirigée à cela, au fonctionnement que nous empêche la COVID avec les nouveaux variants qu'on entend depuis la semaine dernière aussi, avec cette inquiétude autour de cela. Donc, il va avoir certainement, je veux dire, c'est un virus qui mute. Il y a des milliers de mutations. Là, on entend parler de 4 vagues avec 4 variants, mais donc là, on entend parler d'un autre, mais on va pas s'épeurer parce que de toute façon, c'est ça que ça fait un virus pour survivre, c'est muter. Et après ça, on va essayer d'isoler un qui va être plus préoccupant pour être sûr que si notre vaccin va pouvoir nous protéger contre. Mais lorsqu'on voit une évolution naturelle comme ça du virus, ça nous convainc encore plus de dire, ben, si on a une arme pour se protéger contre cela, ben, on va l'utiliser. Comme ça, on pourra quand même continuer notre vie, aller aux anniversaires et aller à nos pratiques de sport, etc. Donc, je pense que c'est bien dirigé parce que on va commencer les fêtes de Noël, puis on va se retrouver en famille, puis on veut pouvoir enlacer papier et mamie. Puis ça, c'est important de se dire qu'on rajoute une couche de protection pour l'enfant lui-même, pour sa famille et pour les autres autour de lui. Parce que souvent, ces mutants vont être beaucoup plus contagieux.
Oui.
Et donc c'est ça qui est important.
D'accord. Vous, le variant Omicron, il vous inquiète pas plus que ça? C'est-à-dire que ce que vous semblez dire, c'est en fait ce qu'on entend beaucoup, c'est que un virus, par définition, va muter. Donc, on va pas commencer à s'énerver chaque fois qu'il y a une mutation ou une variation.
Alors, ces mutations, ce qui est important, l'Omicron, il a une 30aine de mutations. Donc, c'est sûr qu'elles vont s'accumuler. Puis après ça, lorsqu'une population de virus va exprimer toutes ces mutations-là, là, elle va devenir prédominante. Vous savez, le Delta, là, qui a commencé cet été,
oui.
Ça a pris 2-3 mois avant qu'on le détermine en tant que souche prédominante qui était très transmissible dans la communauté. Donc là, ça va prendre du temps. Je dis pas que je suis pas inquiète. Je dis tout simplement qu'il faut pas non plus s'alarmer. Il faut voir dans les prochaines semaines comment va évoluer cette souche-là. Vous savez, Omicron, c'est pas après Delta, là, dans l'alphabet grec. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a eu beaucoup d'autres mutations qui ont finalement échoué à s'installer dans la communauté. Donc, ça veut pas dire nécessairement, parce qu'on l'a nommé déterminé, qu'il est plus virulent, qu'il est plus transmissible, qu'il va causer plus d'hospitalisation ou de décès. Il faut être patient et on a un système de surveillance qui marche très bien. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a pu le déterminer très rapidement, oui. Avec la transparence des pays, etc. On en a déjà en Ontario, au Québec. C'est une question de temps là pour que ça soit dans le Canada. Donc, c'est une question vraiment de le suivre et aussi de voir l'efficacité de notre vaccination actuelle pour le combattre. Donc, je dis pas que c'est pas inquiétant. Je dis tout simplement qu'il faut vraiment suivre et d'autant plus utiliser nos armes,
voilà.
pour s'en débarrasser.
Exactement. Donc, alors, mettons un enfant qui se fait vacciner aujourd'hui. Là, on est le 30 novembre. On sait que, bon, le vaccin, normalement, ça prend quand même un certain temps avant qu'il ait son plein pouvoir. Donc, chez les enfants, vu que la dose est beaucoup plus petite, je pense que c'est un tiers de la dose, est-ce que au bout de quelques jours seulement, la dose est pleinement efficace? Comment ça fonctionne pour se préparer pour le temps des fêtes, là?
Alors, pour la dose, je vais vous rassurer tout de suite, c'est 10 microgrammes, donc effectivement, un tiers de la dose des ados plus de 12 ans et des adultes, mais c'est pas moins efficace, ou ça va pas monter une réponse immunitaire plus lentement ou plus rapidement.
D'accord.
C'est juste que lorsque la compagnie avait utilisé les différentes doses, on a pu voir que le taux d'anticorps produit après une dose de 10 microgrammes était suffisant tellement le système immunitaire des enfants fonctionne bien pour monter une réponse protectrice. Donc ça, déjà, c'est un vaccin qui est aussi efficace que même si la dose est le tiers. Donc, premièrement, le système immunitaire, lorsqu'il va monter une réponse, ça prend à peu près, oui, ça fait quelques jours, mais pour avoir une protection pleine, c'est 14 jours. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut au moins avoir 14 jours, puis c'est pas propre au vaccin de la COVID. Tous les vaccins qui sont dans le calendrier québécois sont, c'est comme ça, même quand on fait un voyage, on dit qu'il faut toujours se vacciner deux semaines avant le voyage pour avoir un maximum de protection avant le voyage. Donc, ça s'applique aussi pour le vaccin de la COVID chez les enfants et comme pour tous les autres vaccins qu'on leur donne. Donc, pour moi, il faut se dire qu'on se donne un deux semaines. Donc, si aujourd'hui ils se font vacciner, ben, la mi-décembre, ils auront déjà une bonne protection. C'est sûr que la protection, elle est optimale après la deuxième dose. L'INSPQ s'est positionné pour que ça soit 8 semaines d'intervalle, mais ça pourrait aux États-Unis, ils ont déjà vacciné 2,5 millions d'enfants, là, 3/4 des enfants de 5 ans sont déjà vaccinés, puis eux, ils ont déjà fait leur deuxième dose, parce qu'ils ont appliqué le 3 semaines de Pfizer, qui avait été inclus dans les essais cliniques. Donc, je veux dire, l'intervalle, là, ça sera à réévaluer si, par exemple, on détermine qu'Omicron est très, très contagieux, puis qu'on doit absolument se mobiliser pour maximiser la réponse pendant le pic de l'hiver. Donc, ça serait, je pense que avant même, lorsque l'INSPQ s'était positionné le 23 novembre, à peine si c'était 3 jours plus tard, là, on a commencé, l'OMS avait déclaré que c'était une souche préoccupante. Donc ça, on va s'ajuster.
Donc, ce serait important, en effet, que l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, réévalue à la lumière d'Omicron et peut-être éventuellement faire passer le délai de 8 semaines entre la première et la deuxième dose, de le rapprocher plus.
Si nécessaire.
Donc, parfait.
Vraiment, tout à fait. Donc, l'INSPQ, vraiment, fait un travail extraordinaire pour faire ce suivi très, très rapproché de notre épidémiologie propre au Québec. Et donc, on va s'ajuster vraiment par rapport. Donc, c'est pas parce que d'autres pays le font 3 semaines que nous, on doit s'aligner. Ça va vraiment dépendre de notre épidémiologie. Mais définitivement, j'encourage les parents à donner au moins une première dose de vaccin avant les fêtes de Noël à leurs enfants parce que au moins, ils vont avoir cette protection supplémentaire.
Voilà. Et le plus tôt sera le mieux, en fait, docteur Wiseman. Alors, parce que si, en effet, on calcule qu'il s'apprend ce 14 jours pour qu'il ait atteint son plein potentiel, donc vraiment l'efficacité supérieure, ben on veut pas se faire vacciner non plus le 22 décembre là. C'est pas comme dans la chanson de Beau Dommage, 23 décembre on se reverra le 6 janvier là.
Je pense que quelle que soit la date, je suis très contente lorsqu'un parent a réfléchi à la question et a décidé de vacciner son enfant. Donc je vais pas mettre cette pression supplémentaire. D'accord. sur le timing, mais c'est certain que le timing fait une différence par rapport donc aux réunions familiales qui s'en viennent. Donc c'est certain que pour moi ça va être un argument de plus pour le faire le plus tôt possible. Mais s'ils ont décidé de le faire plus tard, je vais pas leur dire c'est trop tard là.
Non, on va pas les chicaner.
On a une saison hivernale là qui va s'étendre jusqu'en mars. Je leur dis la même chose pour le vaccin de la grippe d'ailleurs.
Ouais.
Donc j'encourage tous les parents lorsque je les vois dans mon bureau de leur dire on a commencé déjà il y a un mois la vaccination de la grippe. La grippe s'en vient, on sait qu'elle va être un petit peu plus virulente étant donné l'expérience de l'hémisphère sud et donc on veut être sûr que on évite des complications aussi de la grippe. Donc de la même façon que j'encourage pour le vaccin de la COVID, j'encourage aussi pour le vaccin de la grippe cette année. Et s'ils ne l'ont pas fait avant Noël et qu'ils le font un peu plus tard, c'est sur 5 mois là, qu'on a la grippe.
Voilà.
Exactement. Je trouve que c'est une bonne décision.
On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Ça a été très éclairant. Dr Sarah Wiseman, vous êtes pédiatre infectiologue chez Elna Pédiatrie Tiny Tot, donc tout un réseau de cliniques pédiatriques. Très éclairant. Merci beaucoup d'avoir accepté
de
partager vos bons conseils. Merci beaucoup, Dr Wiseman.
Merci. Au revoir.
Et c'est comme ça que se termine l'émission avec ces bons conseils. Oui, en effet. Puis, vaccin pour la grippe, vaccin pour la COVID. Il faut réfléchir à tout ça. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux qui a pédalé toute une shot hier parce qu'on a eu toute une journée à la recherche. Merci beaucoup, Florence, d'avoir été là. Puis merci à vous, bien sûr, toujours, d'être fidèles au poste. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là. Puis on se retrouve demain.
Cube Radio.